France Culture.
Science Chrono, l'entretien archéologique. Antoine Beauchamp.
Aux portes du Sahara, une cité marocaine a été prospère pendant près de 1000 ans avant de connaître un déclin, son nom, Sijil Massa. Si l'on connaît, grâce à de nombreux textes, l'histoire de cette cité ayant frappé des monnaies d'or qu'on a retrouvées jusqu'en Chine, son patrimoine archéologique est soit disparu, soit encore à découvrir malgré quelques campagnes de fouilles qui ont pu être réalisées sur le site depuis les années 1970. Comment expliquer la longévité de ce comptoir médiéval, décrit comme une cité vaste, aux mosquées imposantes et aux jardins florissants, et comment, sur la base des textes qui parlent de Sijil Massa, partir à la recherche du patrimoine archéologique de cette cité capitale à la croisée des mondes qui s'est comme évaporée à l'entrée du désert. Et pour en parler, nous sommes en compagnie de Chloé Capel. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes archéologue chargée de recherche au CNRS, au laboratoire Orient et Méditerranée au sein de l'équipe Islam médiéval, et vous êtes l'autrice du livre Sijil Massa, Porte du Sahara, histoire et archéologie d'une ville oasienne médiévale du sud marocain, paru aux presses universitaires de Rennes. Merci beaucoup de venir nous raconter aujourd'hui l'histoire de ce site de Sijil Massa, une histoire qui a connu de nombreux rebondissements politiques, économiques, culturels et dont il reste encore à trouver la grande majorité des traces matérielles. Avant de faire le portrait historique et archéologique de cette cité, qui a connu une longévité, je le disais, hors pair, j'aimerais qu'on la situe dans l'espace où se trouve, Chloé Capel, Sijil Massa.
Sijil Massa est situé sur la frange nord du Sahara, du désert du Sahara, actuellement en territoire marocain, au pied du Haut Atlas, sur la frontière avec l'Algérie. Pour les auditeurs familiers du Maroc, certains d'entre eux sont sans doute allés faire du ski ou du dromadaire sur les dunes de Merzouga. Nous sommes tout près du site très touristique de Merzouga, dans une région qui s'appelle le Tafilalt. Le Tafilalt en berbère, ça signifie un espace plan, plat. Effectivement, Sijil Massa est niché au cœur d'une plaine, mais cette plaine est entourée de reliefs. Et surtout, cette plaine complètement désertique, il ne pleut pas, il n'y a pas de végétation. Cette plaine est traversée du nord au sud par un oued qui rentre en crue périodiquement, qui prend la naissance dans le Haut Atlas et qui constitue la source de vie dans cet espace par ailleurs très hostile et qui est la raison pour laquelle une niche écologique s'est développée ici et a pu permettre la vie.
Cet oued aura bien sûr son importance dans la prospérité de Sijil Massa et en tout cas dans la constitution de Sijil Massa en tant que cité. Aujourd'hui, si on se rend sur le site de Sijil Massa, qu'est-ce qu'on voit comme preuve de ce passé brillant dont on va parler dans un instant ?
Au premier abord, absolument rien. On est très déçus. Le site se présente comme un vaste terrain vague de plusieurs dizaines, si ce n'est centaines d'hectares, au milieu d'une palmeraie, une palmeraie immense qui porte le nom de Tafilalt également. Et ce terrain vague, d'où émergent quelques ruines ça et là, est vraiment inhospitalier. Il est situé en périphérie d'une agglomération, l'agglomération moderne de Rissani, qui a remplacé la ville ancienne de Sijil Massa. Et il est en grande partie couvert de détritus. Le site archéologique est devenu le dépotoir de la ville de Rissani. Une petite partie, simplement, a été récemment protégée derrière des murs et constitue dans l'imaginaire collectif le site archéologique, mais qui est en réalité beaucoup plus vaste que ce qu'on peut voir aujourd'hui.
On va parler donc de ces vestiges, de cette archéologie, de cette cité brillante sous ces détritus qui constituent aujourd'hui le sol en surface de Sijil Massa. Comment naît l'agglomération de Sijil Massa au Moyen-Âge? Autour de quelle communauté humaine, autour de quels habitants va naître cette cité-là ?
Alors, ce que l'on sait de Sijil Massa aujourd'hui, en majorité, c'est grâce aux sources textuelles produites dans le monde musulman, produites dans le bassin méditerranéen. Aucune source n'est issue de Sijil Massa, c'est important de le dire. Ce sont des sources de seconde main, avec des témoignages de seconde main. Ce que nous disent les textes sur Sijil Massa, c'est que l'agglomération, l'occupation humaine à Sijil Massa est née dans le courant du 8e siècle, autour d'une communauté religieuse constituée autour d'un prosélyte musulman qui va introduire la nouvelle foi, la nouvelle religion dans cette région, et autour de cette communauté de bergers, sans doute nomades, vivant probablement sous la tente, petit à petit va se créer une communauté politique d'abord, un émirat qui va devenir une structure politique, une cité-état autonome dans un premier temps, et l'agglomération, la ville de Sijil Massa, qui va devenir gigantesque en quelques siècles, entourée d'une palmeraie qui fait partie prenante de l'histoire de la ville.
Donc là, on rappelle quand même, oui, le contexte, c'est au 8e siècle, c'est en plein pendant la conquête musulmane que naît Sijil Massa. Et comme vous le dites, cette agglomération va prendre une ampleur très très conséquente. Si on doit faire à gros traits les grandes étapes, les grandes évolutions et les grands changements de la cité de Sijil Massa, quelles pourraient être les grandes époques qui ont marqué l'histoire de cette cité ?
Ce que nous disent les textes, c'est que Sigil Massa a d'abord été une entité politique autonome, une cité-État, jusque dans le courant du XIe siècle, jalousée par beaucoup de pouvoirs environnants. Beaucoup d'armées se sont opposées pour essayer d'en prendre le contrôle, pour des raisons économiques, on en parlera sans doute, notamment l'émirat de Cordoue, en Espagne, qui n'avait pas de continuité géographique avec Sigil Massa et qui en a fait la conquête pendant quelques décennies. Et puis, l'autonomie de la ville prend fin au XIe siècle, elle est intégrée aux grands empires berbères qui vont occuper, qui vont contrôler tout le Maghreb, avec comme capitale Marrakech. Et puis, à la fin du Moyen-Âge, la ville va prendre beaucoup plus d'autonomie, reste une province, hein, sous le contrôle de Fès, mais devient à plusieurs reprises une ville de dissidence, devient de nouveau autonome et toujours disputée par d'autres pouvoirs, et finit par disparaître en tant qu'agglomération dans le courant du XIVe siècle, mais la région reste occupée et l'habitat va se transformer sous une autre forme.
Vous le disiez tout à l'heure, Chloé Capel, on connaît beaucoup Sigil Massa par les textes et finalement assez peu par ses vestiges. Quelle importance ça a pour vous en tant qu'archéologue de faire des fouilles en partant de textes? Est-ce que c'est si courant que ça en archéologie? Et si oui ou non, voilà, quelle difficulté ça implique?
À l'heure actuelle, l'archéologie au Maghreb, l'archéologie médiévale au Maghreb est avant tout conditionnée par les textes. Et nous choisissons des sites parce que nous avons des mentions de ceci dans des textes et quelques indices sur la chronologie. C'est une pratique qui évolue comme partout dans le monde, notamment grâce à l'archéologie préventive qui nous fait aller vers d'autres directions. Mais moi, dans ce travail que j'ai conduit ces dernières années sur Sigil Massa, je n'ai pas pu m'affranchir des sources historiques. Aussi parce que mes devanciers sur les précédents d'archéologues qui ont travaillé sur ce site étaient aussi guidés par les textes. Et c'est assez difficile de s'en détacher pour une question de chronologie, tout simplement parce que l'état de la recherche en archéologie ne nous permet pas d'établir des chronologies très précises, on se fie à celles des textes. Et puis c'est une source précieuse pour un contexte global de compréhension des dynamiques sociales, des dynamiques politiques qu'on ne parviendrait pas à comprendre sinon sans ces ressources textuelles.
Quel portrait se dessine de Sigil Massa dans ses chroniques médiévales, donc ses chroniques écrites? Quelle image on a de cette ville, je le disais, un peu florissante, ça fait un peu rêver comme ça, quand on n'a pas les vestiges encore plus.
Tout à fait. C'est une ville, tout d'abord, ce qui est assez exceptionnel au Sahara, dans un contexte hostile, où la vie est difficile, où se nourrir est difficile, où s'approvisionner en eau est difficile. C'est une ville, et ce qui a marqué les chroniqueurs, c'était une ville verte, donc une ville dotée de jardins, d'une très belle architecture et de jardins, sans qu'on sache vraiment si les jardins étaient dans la ville, autour de la ville, si c'était un urbanisme dense ou aéré. Ce que l'on sait également, c'est que, et c'est la raison pour laquelle elle a laissé une trace dans les texte, c'était une ville marchande et c'était une ville commerçante et une ville d'escale sur les routes du commerce transsaharien, et c'est la clé de compréhension du destin de cette ville, c'est qu'elle a été pleinement intégrée et sans doute un moteur également de ce commerce transsaharien qui pendant plusieurs centaines d'années a relié, a connecté le bassin méditerranéen aux sociétés établies en Afrique équatoriale, et Sigil Massa a été une sorte de point de relais entre ces deux bassins économiques.
Une vraie croisée en fait finalement des mondes. Alors on le disait tout à l'heure, on a situé Sigil Massa sur la carte du Maroc, aux portes du désert. Certains chroniqueurs médiévaux décrivaient l'environnement de Sigil Massa comme un enfer. Il y avait quand même pas mal d'avantages dans la région. Vous parliez tout à l'heure de cette oued. Quels étaient les autres potentiels avantages à installer une cité ici?
Alors l'archéologie nous donne une vision assez sensiblement différente de celle des textes. Dans les textes, de manière assez unanime, c'est un enfer, Sigil Massa. Dans cet enfer qu'est le Sahara, Sigil Massa bénéficie d'un micro-environnement particulièrement favorable, qui est une dépression au milieu de relief et qui en cela draine à elle de nombreuses ressources en eau, si je puis dire, nombreuses, le mot est un peu fort.
Localement,
ce sont des ressources en eau nombreuses, et ce qui a permis aux hommes, aux riverains, aux habitants de la région de, en maîtrisant l'eau, de construire leur société. Et donc, les textes nous parlent d'un enfer, mais localement, il y a de la vie et il y a cette palmeraie, aujourd'hui gigantesque, encore aujourd'hui, la palmeraie du Tafilel, qui, à l'heure actuelle, est encore la plus vaste palmeraie du Maroc, 150 km², qui est pleinement d'origine médiévale et qui n'est pas un paysage naturel, qui est le résultat de centaines d'années de travail de la terre, des hommes, des femmes, de terrassement, d'adduction d'eau, d'extraction de l'eau, pour convertir un sol stérile en une terre arable fertile qui produit et qui a produit beaucoup par le passé.
Alors produit, justement, quel type d'élevage, quel type d'agriculture était pratiqué à Sijilmassa? Est-ce que c'était central dans la prospérité et la croissance de cette cité-là?
Alors, les textes passent complètement sous silence la dimension agricole de Sijilmassa. C'est très, très éthéré, on parle de verdure, mais sans plus de détails. Ce que l'archéologie a réussi à démontrer au cours des dernières décennies, c'est que vraisemblablement, l'agriculture est centrale dans l'économie de Sijilmassa. Et la thèse que je développe, c'est que c'est grâce à l'archéologie, à l'agriculture et à la production agricole, que Sijilmassa a pu devenir un centre caravanier aussi important. Je formule l'hypothèse que c'est grâce aux productions de cette palmeraie gigantesque qui excède en loin les besoins simples de la société locale que les habitants de Sijilmassa ont pu produire des stocks considérables pour se nourrir eux-mêmes, bien évidemment, mais également pour nourrir les visiteurs, les caravaniers, les commerçants, les marchands qui venaient, qui se présentaient aux portes de la ville, et les animaux, le bétail, les chameaux, les centaines, les milliers, les dizaines de milliers de chameaux qu'il fallait emmener en caravane pour une traversée de plusieurs mois où on emportait sur le dos des bêtes le fourrage pour cette traversée, on emportait la nourriture, les dattes, les céréales pour les marchands, probablement de la viande séchée également, et ce qui constitue la clé, on mangeait sans doute pas très bien au Tafilal, pas de manière aussi variée et riche qu'ailleurs au Maghreb, et d'ailleurs les rares études archéobotaniques qui ont été menées là-bas ont bien prouvé le caractère assez austère du régime alimentaire, mais c'était tout de même de la nourriture et c'était suffisant pour attirer et être un argument de poids dans la chaîne opératoire du commerce.
Donc c'est fascinant d'imaginer finalement Sijilmassa comme le dernier stop, le dernier arrêt avant la traversée du Sahara pour ces marchands et où il fallait, comme vous le dites, faire des provisions et envisager d'emmener tous ces éléments qui étaient nécessaires à cette traversée du désert. C'est une ville aussi également d'artisanat, de commerce, de marchands, de transformation, de matières premières. Quels étaient les types d'artisanat qui étaient pratiqués à Sijilmassa?
Alors là encore, les textes sont totalement muets sur les autres activités autres que commerciales à Sijilmassa. Ce que l'on en devine par l'archéologie, c'est que très probablement, tout d'abord, le bassin du Tafilalt a été une source d'extraction minière très importante jusqu'à aujourd'hui, de fait, avec des métaux qui ne sont pas a priori précieux, le plomb argentifère, alors probablement une certaine production d'argent. Sijilmassa a frappé monnaie, ce qui était un apanage assez rare dans les villes médiévales et surtout pour une ville aussi isolée au Sahara, mais probablement aussi des ressources qui étaient exportées vers le sud, vers les sociétés subsahariennes dont on ignore beaucoup de choses sur l'économie. Et puis, très probablement, le sel également, et ça a été une assez grande découverte de l'archéologie. Il y avait très probablement une grosse production de sel à Sijilmassa, dont on sait par ailleurs par les textes que c'était une monnaie d'échange considérable dans le commerce transsaharien et un intermédiaire indispensable entre les productions offertes par les pays méditerranéens et les productions offertes par les pays du Sud.
Les textes font état pour Sijilmassa, Chloé Capel, d'une richesse très très conséquente. Vous l'évoquiez à l'instant, c'était une cité qui frappait monnaie en or. Quelle importance ça avait dans ce monde musulman en pleine expansion de frapper des monnaies en or? Et si l'or n'était pas présent localement, d'où venait cet or?
C'est tout l'enjeu du commerce transsaharien. Ce que l'on perçoit aujourd'hui, c'est que le bassin méditerranéen, depuis l'époque médiévale et à l'initiative des pays musulmans, et l'histoire remonte à Damas, au Proche-Orient, au 8e, au 9e siècle, l'économie méditerranéenne repose sur une monnaie en or que cette région n'est pas capable de produire. Et c'est la raison d'être première de ce commerce qui est allé organiser un échange avec les sources de cet or. Les sources sont présentes en Égypte orientale, mais également un autre gisement considérable à l'époque, c'est en Afrique équatoriale, en Afrique de l'Ouest, les régions actuelles du sud Sénégal, de la Guinée, du Mali. Et c'est pour drainer cet or ouest africain que les caravanes ont été organisées et ont fait remonter vers le nord ces quantités d'or apparemment considérables, qui ont intéressé plus tard aussi les Européens en cherchant à développer le commerce le long des côtes africaines. Et Sijilmassa a eu pour rôle de concentrer une partie de ce flux venant du sud et de le transformer, de transformer la matière première probablement sous forme de poudre ou de petits lingots en monnaie. Et Sigil Massa, qui n'a jamais été vraiment capitale d'empire, a pourtant frappé monnaie d'or pendant 6 siècles, ce qui est une longévité exceptionnelle et unique comme atelier de frappe au Maghreb.
Frapper des monnaies, c'était justement, comme vous le dites, Chloé Capel, une prérogative, une priorité, enfin en tout cas quelque chose qui était pratiqué que dans les grandes cités et les capitales. Ces monnaies-là, elles allaient où dans ce vaste empire musulman?
Alors elles ont d'abord été probablement utilisées pour un commerce régional, local, au sein du Maghreb de l'Ouest, du Maghreb plus généralement. Mais les banques mondiales, si je puis dire, regorgent dans leur collection de monnaies médiévales et de monnaies en or médiéval, de dinars d'or, frappées à Sigil Massa. On a des collections de ces monnaies dans quasiment tous les pays du monde. Et on en a retrouvé en contexte archéologique en Europe, jusqu'en Scandinavie, en Orient, bien évidemment, au Proche-Orient, qui était culturellement lié au Maghreb, et au-delà, en Asie centrale et jusqu'en Chine, des découvertes de ces dinars frappés à Sigil Massa.
Comment on sait que ce sont des dinars qui proviennent bien de Sigil Massa?
C'est écrit dessus.
Tout simplement.
Pour la plupart d'entre eux, c'est écrit dessus. L'atelier est mentionné explicitement sur les monnaies.
Quelles spécificités elles ont du coup, ces monnaies-là, en quoi on les reconnaît au-delà du fait que c'est écrit dessus que ça a été frappé à Sigil Massa, et quel style finalement elles revêtent?
Alors les monnaies frappées à Sigil Massa, les plus célèbres sont en or, mais Sigil Massa a aussi frappé des monnaies d'argent et très probablement de cuivre. Ces dernières, on est un peu plus en peine de les identifier. Pour ce qui est des monnaies d'or, les numismates qui ont travaillé dessus ont démontré que, notamment au XIe et XIIe siècle, la pureté de l'or utilisée dans ces pièces était exceptionnelle, bien supérieure à toutes les autres productions d'or ailleurs au Maghreb. Et puis, elles ont été copiées également, ces monnaies, notamment en Europe. On a essayé de produire des monnaies d'or de même valeur, mais ça n'a pas vraiment marché. Elles n'avaient pas exactement la même valeur. Et puis, elles ont évolué stylistiquement en fonction des pouvoirs, en fonction des systèmes dans lesquels elles étaient utilisées, mais elles se sont distinguées par leur grande qualité jusqu'aux dernières productions dans le courant du XVIe siècle.
Les pouvoirs ont beaucoup changé dans cette histoire du monde musulman. Quels étaient les liens entre Sigil Massa et, par exemple, Al-Andalus, avec le pouvoir plutôt situé dans le monde arabe? Quels étaient à quel endroit se situait finalement Sigil Massa dans ce réseau d'influence musulmane?
Le peu que l'on perçoit à travers les textes, c'est que Sigil Massa était assez centrale dans les préoccupations des États, et qu'elle a fait l'objet d'expéditions militaires à un certain nombre de reprises dans le temps, un certain nombre de sièges. Il y a eu plusieurs dizaines de sièges à travers l'histoire de la ville pour en prendre le contrôle, soit de manière proche, si je puis dire, Fès, Marrakech, qui ont été les capitales du Maghreb extrême, mais plus lointainement, Cordoue, Kairouan, ont essayé de contrôler la ville. Et il y a aussi, à une époque plus récente, des enjeux d'héritage. On attribue Sigil Massa comme un héritage filial pour, quand on est émir, pour par exemple juguler la menace que le fils pourrait représenter sur le père en lui offrant ce territoire qui est un cadeau pour ses ressources économiques. Et puis finalement, à l'époque moderne, Sigil Massa est devenu un lieu d'exil, un lieu de relégation finalement, où les princes de la famille alaouite étaient envoyés pour justement ne pas menacer le pouvoir en étant physiquement éloigné. Mais Sigil Massa a gardé une place considérable dans la construction politique sous différentes formes de tous ses pouvoirs.
Alors vous nous avez fait le très beau portrait historique de Sigil Massa, Chloé Capel, mais vous êtes archéologue et vous travaillez sur ce site-là en tant qu'archéologue. Vous le disiez au début de cette émission, au début de cet entretien archéologique, finalement quand on va à Sigil Massa aujourd'hui, on n'a pas trop de traces matérielles de ce passé glorieux. Quelles traces y a-t-il quand même? Est-ce qu'on a des preuves architecturales de la grandeur de Sigil Massa? Quels sont les éléments dans ce paysage assez plan qui nous rappelle la grandeur de Sigil Massa?
À première vue, les traces ne sont pas très nombreuses. En réalité, à qui regarde bien et regarde longtemps, et à qui est patient, comme je le suis, les indices sont partout, et ce site est exceptionnel, fabuleux. Il y a des vestiges archéologiques partout, sur des dizaines de kilomètres à la ronde. Ce n'est pas uniquement une ville, un tel archéologique principal. Il y a des centaines de sites satellites dans toute la région du Tafilalt, étroitement connectés à Sigil Massa. Mais il est vrai qu'en surface, c'est assez austère. C'est difficile de percevoir les occupations. L'architecture était une architecture de terre et probablement également de matériaux périssables dont on a du mal à percevoir les vestiges en surface. Donc, donc c'est assez peu spectaculaire. Ce qui est peut-être le plus spectaculaire dans la Palmeraie et aux alentours, ce sont les aménagements hydrauliques qui, eux, sont partout, à toutes les périodes, datent de toutes les périodes et soulignent combien le paramètre hydraulique était décisif dans la vie de cette ville.
À quoi ressemblent ces installations-là, si on doit en prendre quelques exemples et qui vous ont, vous, particulièrement impressionné?
Alors là, moi, le choc ultime de ce travail à Sigilmassa, ça a été la découverte du Ziz, ou plus exactement du canal du Ziz. Donc le Ziz, c'est le nom de l'oued qui traverse la région, du nord au sud. Et cette oued, qui est décrite d'ailleurs dans les textes comme la source de vie, est en réalité, ça a été la découverte archéologique des dernières décennies, et de construction totalement artificielle. C'est un canal construit de main d'homme à destination de l'irrigation et dans le but précisément de développer la palmeraie du Tafilalt et de développer ces 150-200 km² de culture grâce donc à un détournement total du cours naturel de l'oued. Le canal du Ziz se situe à une vingtaine de kilomètres du cours naturel du fleuve. Il mesure une quarantaine de kilomètres de long, une trentaine de mètres de large. C'est une rivière, c'est énorme, véritablement, en fait, qui détournait l'intégralité du flux de cette oued, notamment au moment des crues. Et ces crues, contrairement à ce qui se passe ailleurs au Sahara, qui en général sont imprévisibles, liées aux orages, au Tafilalt, elles sont prévisibles parce qu'une partie de ces crues provient de la fonte des neiges du Haut Atlas. Et donc cette oued rentre en crue pendant plusieurs semaines avec un débit d'un fleuve méditerranéen, si je puis dire. Et cette source en eau, qui est le trésor du Tafilalt, a été de manière extrêmement ingénieuse et sophistiquée maîtrisée par l'homme, détourné, façonné, dirigé, orienté pour l'utiliser à des fins d'irrigation. Et c'est ce marqueur, en fait, c'est cette oued, ce canal, qui définit en quelque sorte tout le paysage actuellement du Tafilalt.
Alors Chloé Capel, si ce site est aussi important dans les textes, et que, comme vous le dites, les traces archéologiques de la grandeur de Sigilmassa sont partout, pourquoi n'a-t-on pas connu plus de campagnes de fouilles sur place? Puisque je crois qu'il y a eu relativement peu, finalement, de fouilles archéologiques réalisées sur place.
Le site est ingrat. Le site est ingrat avec ces
archéologues. C'est dur, c'est un métier physique.
C'est dur. L'environnement est dur, tout d'abord. Le climat est dur. Venteux, sec, aride. Jusqu'il y a peu, l'endroit était isolé, difficile d'accès. Il y a maintenant, grâce au tourisme, le goudron qui va jusqu'au Tafilalt. Mais les conditions d'accès étaient difficiles. Le désintérêt des archéologues pour Sigilmassa est très lié à l'histoire de notre discipline. Le site n'étant pas monumental, le site étant un tas de terre fondue, toute l'architecture était en terre, elle a fondu, il n'y a pas de vestiges spectaculaires. Et vous le savez, pendant longtemps, l'archéologie était celle des monuments, des inscriptions, il n'y a pas tout ça à Sigilmassa. Lorsque l'archéologie moderne a commencé à se développer, et l'archéologie médiévale en particulier, dans les années 70-80, très tôt, les autorités du patrimoine du Maroc ont ciblé Sigilmassa comme un site prioritaire. Mais il faut des compétences techniques extrêmement pointues pour fouiller ce site, qui est un site en urbain, extrêmement dense, avec plusieurs mètres de stratigraphie, avec des structures absolument partout, très densément réparties. Et c'est un site qui a été profondément remanié, profondément récupéré, recyclé, si je puis dire, pour les matériaux de construction, pour les dalles de fondation des murs. Et donc c'est un site rempli de fosses, de creusements, de trous. Tout est en négatif. Il n'y a plus rien en élévation. La plupart des vestiges sont en négatif. Et donc c'est un abord à qui fouille, à qui s'attaque à fouiller, notamment dans des test pits, dans des petits sondages étroits. C'est incompréhensible. Et il faut être particulièrement aguerri à la fouille en urbain, ce qui est rarement la formation des archéologues, à la fouille en urbain en terre et dans le sable pour pouvoir y comprendre quelque chose. Et de fait, de toutes les campagnes qui ont eu lieu à Sigilmassa, donc depuis les années 60, de 5 ou 6 campagnes à l'heure actuelle, 5 ou 6 missions, les archéologues eux-mêmes ont généralement été déçus de leur propre travaux et ont globalement, pour les périodes les plus anciennes, pour les missions les plus anciennes, ont globalement peu publié parce qu'ils étaient dépassés en fait par leurs travaux.
La principale campagne est une campagne maroco-américaine baptisée MAPS pour Projet Maroco-Américain de Sigilmassa qui a duré de 1988 à 1998. Quelles ont été les découvertes réalisées dans le cadre de cette campagne de 10 ans qui ont quand même marqué l'histoire de l'archéologie à Sigilmassa?
Ce projet était pionnier, il a été dirigé par Ron Messier, un collègue américain que j'ai eu la chance de rencontrer et qui est à l'origine de mon travail sur Sijil Massa. Il a travaillé donc pendant 10 ans sur ce site dans des conditions très adverses, à la fois climatiques, administratives, politiques. Mais il a eu, en partant de rien, le MAPS a réussi à définir une chronologie générale du site et a enfin donner un aperçu sur la matérialité de ce site, en définissant à peu près l'emprise, en définissant quelques dynamiques de développement, la densification urbaine, le redéveloppement du site, en éclairant les premiers éléments de culture matérielle, en éclairant les premières informations sur les objets de cette culture, sur l'art également dans cette ville. Et puis, ils ont réussi à mettre ce site sur le devant de la scène. Et depuis le MAPS, beaucoup d'archéologues attendaient beaucoup de ces résultats, ont été un peu déçus, mais ce programme a suscité l'envie et a démontré qu'il était possible d'y travailler et d'y collecter des résultats significatifs.
Puisque vous parlez, Chloé, appel de ces objets, de cette culture matérielle. Y a-t-il une culture matérielle propre au site et à la cité de Sijil Massa, à ce région du Tafil Alt en particulier ?
Alors c'est toute la question d'étudier une société dont on ignore tout par ailleurs ou presque tout, et d'étudier une société au Sahara, le Sahara, dont par ailleurs également on ignore à peu près tout d'un point de vue de la culture matérielle. Et jusqu'à présent, Sijil Massa était considéré comme une excroissance du monde maghrébin, du Dar el-Islam, de la culture de Marrakech, de Fès. Et au fur et à mesure où les fouilles se déroulent maintenant et où la connaissance de la culture matérielle s'affirme, j'ai le sentiment qu'en fait la culture matérielle de Sijil Massa est assez différente de ce que l'on trouve ailleurs au Maghreb et qu'il y aurait peut-être vraiment une culture matérielle saharienne à l'époque médiévale sensiblement différente. Ce qui a été une grande découverte, ce sont des éléments de décor architectural. Tout d'abord du décor architectural, les Sahariens décorent des maisons en dur et ne sont pas uniquement sous la tente. Et le MAPS a mis au jour un certain nombre de programmes de décors en plâtre, sculptés et peints, qui n'ont pas grand-chose à voir avec ce qu'on connaît par ailleurs dans le reste du Maghreb. C'est une sorte d'unicum stylistique, à la fois dans le répertoire décoratif, dans les couleurs utilisées, à la fois des décors de plâtre, des décors de bois, un plafond peint a été préservé, daté du Xe siècle. C'est sans doute un des plus anciens vestiges que l'on connaît d'art architectural au Maghreb, mais c'est assez unique. Et ce caractère assez singulier de l'art de Sijil Massa, on le retrouve dans la production céramique également, qui est assez rustique, si je puis dire, mais qui est très reconnaissable. Une céramique blanche, une céramique non glaçurée, avec une pâte très claire, visiblement blanchie au sel, et qui, là encore, se distingue dans des formes finalement très modernes du reste de la céramique que l'on trouve au Maroc.
Une toute dernière question, puisqu'on arrive au terme de notre discussion. Chloé Capel, qu'est-ce qui a provoqué le déclin de Sijil Massa, qui a été aussi importante à tout point de vue?
Le déclin de Sijil Massa n'est pas isolé, il faut le replacer en contexte. Le 15e siècle au Maghreb est une période de crise urbaine pour beaucoup de facteurs démographiques, sanitaires, politiques. Donc Sijil Massa est touché de plein fouet, comme de nombreuses villes du Maghreb, par un déclin général. La ville disparaît, mais l'habitat ne disparaît pas. Et quand la ville en tant qu'unité urbaine va exploser, les habitants du Tafil Alt vont se relocaliser et continuer à faire vivre la ville jusqu'à la fin du commerce transsaharien.
Merci beaucoup en tout cas à vous, Chloé Capel, d'être venue brillamment nous raconter cette histoire de Sijil Massa. Je rappelle la parution de votre somme, Sijil Massa, Porte du Sahara, aux presses universitaires de Rennes. Merci encore d'être venue nous donner une image de cette cité évaporée aux portes du Sahara. Notre émission touche à sa fin. Grand merci à toute l'équipe, Eve Etienne, Bruno Sansigny, à la réalisation Olivier Bétard. Merci à Dalia, aujourd'hui à la technique. Merci également à nos partenaires l'INRAP et l'INA. Vous pouvez réécouter cette émission comme toujours sur l'appli Radio France ou bien sur le site franceculture.fr. N'oubliez pas de régler vos montres à l'heure des sciences. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, pour une nouvelle exploration du passé au présent.